Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons une nouvelle série. C'est l'étude numéro 1 concernant l'enfer. Sur Internet, pour ceux qui possèdent Internet, je ne le possède pas, vous pouvez trouver sur l'enfer, le ciel, et sur une quantité d'autres sujets, donc vous pouvez retrouver cela même mieux, à mon avis. Simplement, cette deuxième série concernant l'enfer, j'ai reçu dans le cœur de le faire un peu différemment. Vous savez, beaucoup de gens pensent on ira tous au paradis. Du reste, nos amis allemands, puisque moi-même je suis de langue allemande, eh bien, ils chantent souvent dans leurs fêtes « Wir gehen alle in den Himmel ». Nous allons tous au ciel. Nous allons tous arriver au ciel, qui que nous soyons. Eh bien, je ne pense que là, il y a une grande erreur. Car, pour ceux qui un jour arriveront à la fin de leur vie, c'est mon cas maintenant à 90 ans, eh bien vous savez, on apprend à réfléchir au passé de notre vie. Et on réfléchit, est-ce qu'il y a un futur? Ou est-ce que nous sommes comme le rat? Quand le rat meurt, c'est terminé. Mais supposons que pour nous ce ne soit pas pareil. Voyez-vous, si je m'appuie sur ce que j'entends habituellement aux enterrements, la réponse est oui, un oui retentissant. Nous n'allons pas tous arriver automatiquement au ciel. Avez-vous déjà assisté à des obsèques où quelqu'un mettait en doute la promesse du paradis? Non. Le plus souvent, dans ces obsèques, on n'ose pas dire toute la vérité. Surtout de nos jours, ça choquerait. On se ferait discréditer. Prenons par exemple, vous savez, je fais pas de politique, mais prenons un kamikaze islamiste qui se fait sauter devant une école où des dizaines d'enfants innocents qui n'ont rien à faire avec toute cette politique vont être morts les uns infirmes à vie. Eh bien, je ne vous dis pas que vous n'êtes pas capable de répondre par vous-même. Bien sûr, vous pouvez répondre par vous-même ce que vous en pensez. Chers amis, j'ai envie de croire en un Dieu qui finira par sauver l'humanité tout entière, évidemment. Mais Dieu a-t-il vraiment décrit l'avenir ainsi? Est-ce cela que les Saintes Écritures enseignent vraiment? Malgré ce que nous avons envie de croire, nous devons comprendre ce que Dieu, dans sa sainte parole, nous dit de croire. C'est le but de cette étude. Prenons maintenant cette question à bras le corps. La Bible affirme-t-elle vraiment que tout le monde sera sauvé? Depuis les débuts du christianisme, des chrétiens ont toujours souhaité que Dieu sauve l'humanité tout entière. En fait, ils ont même soutenu que la Sainte Bible l'enseigne. On appelle ce point de vue l'universalisme. L'universalisme prend différentes formes. Soyons prudents avant de taxer l'universaliste ou de universaliste quiconque affirme que tout le monde sera sauvé. Le terme universaliste est aussi peu précis que le terme baptiste ou darbiste ou des frères larges. Quand vous parlez d'une personne baptiste, vous indiquez seulement qu'elle ne pratique pas forcément le baptême des nouveau-nés. À part ça, vous n'avez pas dit grand-chose. C'est exactement la même chose avec les universalistes. Ils croient tous qu'un jour, l'humanité entière sera sauvée, mais cette croyance s'exprime de différentes manières. Puis on trouve les universalistes chrétiens, dont certains pourraient être qualifiés d'universalistes du plein espoir. Ceux-là croient que Christ est bien le seul chemin vers Dieu, mais ils chérissent l'espoir suivant que Dieu, grâce à son Fils, finira par sauver tout le monde, Hitler, Staline et tous les dictateurs même actuels. N'est-ce pas ce que nous espérons tous? On aimerait bien. Mais eux croient aussi pouvoir défendre cette position même par les Saintes Écritures. Donc avec toute foi, ils ont quand même une certaine prudence. Des universalistes chrétiens qui sont un peu moins prudents, pourraient être qualifiés d'universalistes de la pleine conviction. Comme le groupe précédent, ils croient que Christ est le seul chemin vers le salut. Mais ils ne s'en contentent pas. Ils affirment que la Sainte Bible enseigne clairement que toute l'humanité sera sauvée. Pour eux, cette idée est plus qu'un simple espoir, mais c'est carrément une certitude. Ils croient fermement que la Sainte Bible enseigne qu'en fin de compte, Jésus sauvera tout le monde. Oh, ça c'est trop beau pour être crédible. Comprenons bien que les universalistes chrétiens, qu'ils soient du plein espoir ou de la pleine conviction, croient tous que nous sommes sauvés par grâce, c'est-à-dire par le moyen de la foi en Christ et en Christ seul. C'est déjà pas mal. C'est ce que nous croyons tous au fond. La différence, c'est qu'ils sont persuadés, eux, qu'après la mort, les gens auront de toute façon, car Dieu est amour, auront de toute façon une autre chance ou plusieurs autres chances. Pourquoi pas? Ils croient donc que Jésus les sauvera tous, absolument tous, quoi qu'ils aient fait. Une illustration vous aidera. Prenons le livre des Juges, chapitre 14 à 16. Là, il est raconté l'histoire d'un homme qui n'en faisait que à sa tête. Il s'appelait Samson. Dieu lui avait donné une force absolument hors du commun. C'était un vaillant guerrier. Mais sa boussole morale, oui, nous en avons tous une boussole morale, qui peut parfois déraper. Eh bien, cette boussole morale était carrément déréglée. Il avait un amour exagéré pour les femmes païennes de ce temps-là. Au début de l'histoire, voilà que son Samson tombe amoureux d'une Philistine, ce qui était contre la volonté morale de Dieu. Notez le livre des Juges, chapitre 3, versets 1 à 6. Et là, on peut lire au chapitre 14, toujours dans le livre des Juges, chapitre 14, verset 4, que cette histoire d'amour venait, écoutez bien, tout de même, de Dieu l'Éternel. Car Dieu cherchait une occasion de dispute avec les Philistins. Et là, il s'est servi de la convoitise de Samson pour s'attaquer à eux. L'amour de Samson pour les femmes étrangères allait évidemment contre la volonté morale de Dieu. Mais il a joué un rôle dans sa volonté souveraine. Donc, Samson était libre d'aller à l'encontre de la volonté morale de Dieu, et pourtant Dieu est intervenu pour accomplir sa volonté souveraine en se servant de cette situation pour vaincre les Philistins. Revenons maintenant au Nouveau Testament, à la première épître de Timothée, chapitre 2. Dans quel sens Dieu veut-il que tous les hommes soient sauvés? Dans le sens de sa volonté morale. Mais ce n'est pas sa volonté souveraine. Ou si les gens sont-ils absolument libres de rejeter son salut? Ce verset montre néanmoins la profondeur, ou si vous voulez, le profond désir de Yahvé l'Éternel. Alors une question du genre « Dieu obtient-il ce que Dieu veut ?» Cela impliquerait que Dieu serait défaillant puisqu'il ne saurait pas du tout ou il ne saurait pas qu'il ne pourrait pas sauver tout le monde comme il l'a décidé au fond de lui-même. C'est au mieux, il me semble, une hypothèse un peu naïve. Au pire, c'est un discours qui est terriblement trompeur. Donc, l'apôtre Paul, il n'invite pas Timothée à prier pour chaque être humain. Il ne cherche pas non plus à montrer que Dieu a décrété qu'il sauverait absolument tout le monde. Wir gehen alle in den Himmel. Le but de la première épître de Timothée, chapitre 2, et d'autres passages semblables, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, par exemple, c'est de montrer que Dieu n'est pas sectaire. L'amour de Dieu ne connaît aucune frontière. C'est pour cela qu'il aime renverser les distinctions sociales. Par la croix de Jésus-Christ, l'Évangile a brisé toutes les barrières ethniques et socio-économiques. L'apôtre Paul l'affirme dans Éphésiens, chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 22. Là, vous verrez que Dieu désire même que des pédophiles comme le fameux Néron, c'est-à-dire des rois, des prélats, voire même certains religieux, tous ceux qui exercent l'autorité. Donc, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 2, nous voyons que tout se tourne vers Jésus. D'ailleurs, s'il n'avait eu la tête coupée en chemin, selon la tradition, l'apôtre Paul aurait pu encore longtemps annoncer l'Évangile à d'autres Néron. Mais ceci est une autre histoire. Qui a laissé la porte ouverte? Passons directement au dernier livre de la Sainte Bible. Selon certains, ce livre affirme que, en fin de compte, tous les hommes seront sauvés. Apocalypse chapitre 21 décrit des flots de chrétiens pénétrant dans la Nouvelle Jérusalem, qui représente en quelque sorte notre ultime état. L'auteur, l'apôtre Jean, explique que ces portes ne seront pas fermées. Apocalypse chapitre 21, verset 25. Et que les rois de la terre y apporteront leur gloire. verset 24. Mais qui a laissé ses portes ouvertes? Que veut dire l'apôtre Jean avec cette image? Certains y voient Dieu attendant éternellement les bras grands ouverts, en l'occurrence les portes grandes ouvertes, pour que les non-croyants se tournent tous vers lui. Une fois qu'ils auront été purifiés dans les temps de feu, explique un célèbre auteur, eh bien même les hommes les plus ignobles seront libres d'entrer dans la nouvelle Jérusalem en passant par ces portes qui ne fermeront jamais. Mais, chers amis, cette image des portes ouvertes montre-t-elle vraiment que ceux qui ont refusé l'amour de Dieu durant leur vie auront une infinité d'occasions de l'accepter après leur mort? C'est très intéressant tout ça. Et si je pouvais, j'aimerais tellement y croire. Mais voilà qu'il y a trois éléments dans tous ces textes qui m'empêchent tout de même d'y adhérer. Premièrement, notez Apocalypse chapitre 20 et 21. Ils ont décrit que là, il y a l'étang de feu. Oui, un étang de feu. C'est la destinée finale pour ceux qui n'ont pas suivi Jésus au cours de leur vie. Rien ne laisse entendre que ceux qui sont envoyés dans cet étang peuvent espérer en sortir. Il n'est pas parlé de ça. Deuxièmement, rien dans le texte n'indique que l'étang de feu serve simplement à purifier les méchants, voire même de les rendre meilleurs. Mais au contraire, la scène du jugement décrite en Apocalypse, dit Offenbarung, chapitre 20, verset 11, jusqu'au verset 15, explique que l'étang de feu est bel et bien un châtiment. Attention, ce n'est pas moi qui prétends tout ça. C'est écrit noir sur blanc. Et troisièmement, même après le passage des portes ouvertes, en chapitre 21, verset 24, jusqu'au verset 26, l'apôtre Jean continue, il continue à décrire deux destinées différentes, pour les croyants et pour les non-croyants. Il dit: heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Ensuite, il est dit: dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratique le mensonge. Apocalypse chapitre 22, versets 14 et 15. Donc, ce passage montre une séparation définitive entre les croyants et les non-croyants. J'ai dit définitive. Ont-ils lavé leur robe? Autrement dit, ont-ils accepté durant cette vie, durant leur vie, que le sang de Jésus couvre leurs péchés? Apocalypse chapitre 7, verset 14. Ça, c'est la réponse à ces questions qui déterminent la destinée des uns et des autres. C'est un peu exagéré, me semble-t-il, de suggérer que les non-croyants peuvent laver leur robe pendant qu'ils sont dans les temps de feu. Il faut être dingue pour croire ça. Et ensuite entrer par les portes de la Nouvelle Jérusalem. Résumons-nous. Certains passages du Nouveau Testament semblent affirmer qu'à la fin, tout le monde sera sauvé. Or, le contexte montre que ce n'est pas du tout le cas. Sinon, il contredirait de nombreux passages sur le jugement et le châtiment, comme nous le verrons un peu plus tard. Chers amis, qu'en est-il des passages qui décrivent qu'il y a une seconde chance ou plusieurs autres chances? Nous avons vu que tous les universalistes chrétiens sont d'accord sur une chose, que après la mort, tout le monde bénéficiera d'une autre chance ou d'une infinité d'autres chances, et ainsi de enfin choisir Jésus pour leur sauveur. Que c'est beau! Trop beau pour être vrai. La théorie universaliste, elle dépend de ces idées-là. Passons donc au peigne fin. Tous les passages qui évoqueraient cette possibilité post-mortem. Le problème, c'est que, hélas, il n'existe pas. Aucun passage de la Bible n'indique qu'il y aura une seconde chance après la mort pour se tourner enfin vers Jésus. Oui, aucune autre chance. Chers amis, ne l'oubliez pas. Nous ne sommes pas simplement en train de régler une question de doctrine, mais nous parlons de la destinée des gens. L'idée que des hommes et des femmes comptent sur cette seconde chance après la mort, alors que les autres auteurs bibliques n'en ont jamais parlé explicitement, il me semble que ça devrait nous faire réfléchir. Nous parlons de destinée éternelle. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Absolument pas. l'amour de Dieu percera la carapace de tous les cœurs endurcis, et même les pécheurs les plus corrompus finiront par céder et se tourner vers lui. Faire valoir cet argument super attrayant, sans aucune preuve biblique, et semble-t-il qu'elle serait claire, mais c'est une tromperie, une terrible tromperie, et c'est particulièrement dangereux pour vous si vous êtes l'un de ces pécheurs et que les choses ne se passent pas ainsi. Par exemple, supposons qu'un médecin vous assure que votre fille allait s'en sortir, mais voilà qu'elle meurt 3 jours plus tard. Vous feriez certainement appel aux autorités. Selon la Sainte Bible, croyez-moi, il n'y aura pas une seconde chance après la mort. Pire, certains passages mettent en garde contre ce type de faux espoir. Jésus, par exemple, a raconté vers la fin de sa vie, il a raconté une parabole sur les secondes chances. Notez Saint-Luc chapitre 13, versets 22 à 30. Jésus se rend à Jérusalem et ses disciples lui demandent combien de personnes seront sauvées. Jésus répond que peu, avez-vous entendu le mot peu, que peu seront sauvés, et pire encore, c'est quand même Jésus qui dit que beaucoup de ceux qui pensent d'être sauvés se retrouveront en dehors du royaume. Ils frapperont à la porte, espérant que Jésus les laissera entrer. Que se passera-t-il alors? Vous savez, il y a un serviteur de Dieu d'autrefois, pour ne pas le nommer, mais on risque rien, il est près de son Seigneur. C'était Billy Graham, un des plus grands prédicateurs. Il a dit, quand nous arriverons au ciel, pour ceux qui sont nés de nouveau, qui sont sauvés, il y en a qui seront étonnés de ne pas voir certains qui devraient pourtant y être. Et encore plus étonnés de voir certains que nous avons pensé qu'ils ne devraient jamais y être, mais qui s'y trouveront. Selon ceux qui croient aux secondes chances après la mort, Jésus répondra « Venez et entrez ». C'est bien ça qu'il doit répondre Jésus, n'est-ce pas? Il n'a pas le droit de répondre autre chose. Ce serait tout de même cruel de penser qu'il puisse répondre autre chose. Ce serait, on peut quand même le dire, un terrible manque d'amour et même une grande injustice. Croyez-vous Jésus capable de dire La porte est fermée. Je suis désolé. I'm sorry. Si vous étiez arrivé un peu plus tôt, j'aurais pu faire quelque chose. Mais maintenant, c'est trop tard. Eh bien, oui. Oui, oui. Il en est capable. Même si nous avons envie de voir la porte grande ouverte, Jésus a dit que, au contraire, il la laisserait fermée. Notez Saint-Luc, chapitre 13, verset 25 jusqu'au verset 28. Il est dit, « Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Selon certaines versions, « Je ne sais pas qui vous êtes. » Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous, vous serez jetés dehors. J'ai dit Saint-Luc, chapitre 13, versets 25 à 28. Nous allons terminer cette très courte étude. Très courte, mais les suivantes seront plus importantes. Chers amis, ce passage ne laisse absolument pas entendre que la porte restera ouverte en permanence. Si Jésus croyait aux secondes chances pour ceux qui le rejettent ici-bas, sa parole nous tromperait dangereusement. Ceux qui suivent Jésus, ils connaîtront la vie éternelle dans la présence de Dieu. Mais ceux qui ne le suivent pas subiront le châtiment. Comme nous l'avons vu dans cette étude, la Bible ne semble pas entretenir l'espoir d'une seconde chance. Quel terrible effroi connaîtront tous ceux qui se retrouveront de l'autre côté de la porte. Ceux-là voudront entrer, ils frapperont et supplieront, souhaitant avoir fait des choix différents quand ils en avaient encore l'occasion. Cette parabole nous pousse très sérieusement à réfléchir. Jésus n'a pas prononcé ces paroles juste pour qu'on parle un jour sur un CD comme droit maintenant. Comme l'ensemble des Saintes Écritures, cette histoire doit ou devrait toucher notre âme. Alors je vous en prie, prenez au moins le temps de réécouter avec beaucoup d'attention ce que je viens de vous expliquer, sachant qu'il existera des gens à l'extérieur, croyez-moi. Ils seront dans un terrible lieu de châtiment. Un lieu que l'on appelle l'enfer, et vous allez en entendre de beaucoup de choses plus précises dans les études suivantes, donc demain matin et les jours suivants. Oui, nous devons absolument faire attention. Chers auditeurs et chères auditrices, j'ai dit que pour ceux qui possèdent Internet, vous pouvez chercher sur www.bibleexplique.ch et là vous trouverez toute une série sur le ciel et sur l'enfer. Et je vous recommande d'écouter l'extraordinaire témoignage de Marietta. Encore une fois, nous pouvons dire dans notre prière, maintenant ensemble, ô Seigneur, sachant que notre connaissance est limitée, surtout la mienne, malgré mon très grand âge, fais-nous comprendre que nous n'avons pas forcément raison en tout. C'est la raison pour laquelle nous devons accepter et aimer ceux qui n'ont pas exactement les mêmes points de vue que nous et que moi, mais que tous ceux qui reconnaissent qu'il n'existe aucun autre salut et nul autre salut possible que en Jésus-Christ. Alors cette personne, c'est notre sœur, c'est notre frère qui fait partie, ils font partie du même corps universel de Dieu, le Père, le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et nous pouvons tous dire Amen. Chers amis, Dieu voulant, demain matin, pour la suite de cette série, by the way, en passant, j'ai dû faire ce numéro 1 une deuxième fois parce que j'avais avancé des choses qui ne sont pas forcément utiles de dire. Vous savez que un célèbre président actuel en Europe a écrit un livre et tous ceux qui font partie de sa gouvernance ont dit un président ne devrait pas dire ça. Alors j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire et raison pour laquelle je viens de refaire cette étude. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et cette série étant du reste terminée, le Seigneur a mis dans mon cœur de faire quelque chose de tout différent. Vous le verrez. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.